Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h. Voici les titres de cette édition. L'ONU appelle à mettre fin à l'impunité au Mali et réclame des enquêtes sur les violations des droits humains dans le pays. Les Nations Unies ont publié il y a quelques jours deux rapports dans lesquels elles accusent les groupes armés ainsi que l'armée malienne de graves violations des droits de l'homme et du droit international. La coordination des groupes armés réfute les allégations de violations de droits de l'homme à son encontre. La CMA demande une enquête indépendante internationale. La plateforme, elle, se refuse à tout commentaire. Selon son porte-parole, ce rapport de l'ONU est en contradiction avec d'autres rapports fournis par les instances habilitées du comité de suivi et de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les réfugiés maliens du camp de Mbera sont confrontés à des conditions de vie difficiles et à la malnutrition qui frappe les enfants. Ils interpellent les organisations humanitaires pour améliorer leur situation, leur sécurité avant leur retour dans leurs localités respectives. Bonjour à tous et bienvenue à cette quantité à la présentation de cette édition. Deux rapports des Nations Unies publiés mardi dernier montrent la nécessité de mener des enquêtes crédibles et réclament la fin de l'impunité pour les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises dans la ville de Kidal en mai 2014 et dans le village de Tinhama en mai 2015. Ces rapports se basent sur plus de 65 missions effectuées dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et à Bamako. Les détails avec Sekou Gadigo.
Le premier rapport revient sur les événements de Kidal. Parmi les violations et abus commis par le MNLA, le ACUIA et la CPA, le rapport indique la responsabilité de ces mouvements dans la mort de 8 personnes, dont 6 membres de l'administration malienne, parmi lesquels certaines auraient été exécutées. Le rapport indique aussi que les forces armées maliennes ont quant à elles utilisé des armes lourdes de façon indiscriminée en direction des zones habitées par des civils. Le deuxième document revient sur les violations des droits de l'homme dans le village de Tinhama, dans la région de Gao, suite à une confrontation entre des éléments armés du Gatia et de la CMA. Le rapport note qu'au cours de cette attaque, des éléments du Gatia auraient sommairement exécuté 6 hommes. Il serait également responsable du déplacement forcé de 230 personnes sur une base ethnique. Des éléments de la CMA seraient quant à eux responsables de pillage et d'avoir enlevé 3 combattants du Gatia. Le rapport souligne également l'inaction des membres des FAMA à protéger la population, ce qui pourrait engager la responsabilité de l'État malien pour manquement à ses obligations internationales. S'ils sont qualifiés devant un tribunal compétent, ces actes pourraient constituer des crimes de guerre, précise le rapport.
La coordination des groupes armés rejette le rapport de l'ONU et dément de manière catégorique les informations sur les cas de violation des droits de l'homme. La CMA demande plutôt une enquête indépendante internationale et affirme respecter les formes conventionnelles lors des différents affrontements qui ont eu lieu au nord. Atai Ag Mohamed est chargé des questions de droits de l'homme au MNLA, membre de la CMA. Il est joint au téléphone par Intalag Bilal.
Nous avions pris acte de ce document des Nations Unies. Ce sont des informations, ce ne sont pas des faits avérés. C'est pourquoi nous avions exigé que la commission d'enquête internationale indépendante démarre. Elle est la seule en capacité de nous dire exactement ce qui s'est produit. Et là, jusqu'ici, nous, au niveau de la CMA, nous ne sommes pas au fin d'une information selon laquelle il y a eu des exécutions sommaires. Au contraire, nous sommes les seuls à avoir détenu des gens et de les libérer sans ressources. Donc, il faut coûte que coûte que la commission d'enquête indépendante démarre, pour que l'on puisse vraiment être sûr de la véracité des accusations de part et d'autre. Emma demande ces informations sur les accusations. C'est archi faux. Nous démentons les allégations selon lesquelles il y a eu des exécutions sommaires. C'est archi faux. La CMA le dément au plus haut niveau, particulièrement le MNLA, qui a fait preuve du respect des droits humains dans tout cela.
Quant à la plateforme, elle se refuse à tout commentaire. Selon son porte-parole, ce rapport de l'ONU est en contradiction avec d'autres rapports fournis par les instances habilitées du comité de suivi et de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Maître Aruna Touré, porte-parole de la plateforme, joint par Issa Faka Bassissoko.
On n'est pas censé savoir ce qui s'est passé au moment de la constatation de ces faits, puisqu'on n'a pas été convié à la constatation de ces faits, vous savez. Donc si l'ONU vous dit qu'il y a des violations dans lesquelles la plateforme est impliquée ou la CMA est impliquée, c'est à l'ONU qu'il revient d'apporter la preuve de cette implication. Il dit, nous n'avons pas été appelés à constater de façon contractuelle l'existence de ces faits. Nous, nous avons d'autres rapports contradictoires qui nous viennent d'une cellule de mise en œuvre de l'accord qui va sur le terrain à l'occasion de chaque événement et qui fait des constatations. Et il n'a jamais été dit, nulle part dans ces différents rapports, que la plateforme femme est responsable de tel ou tel fait ou quoi. Et donc, on ne peut s'en tenir qu'à ces rapports-là, qui sont officiels, qui viennent d'une organisation prévue par l'accord. Un commentaire, parce que c'est un rapport qui m'est même inconnu. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu.
Faites vos réactions et commentaires à ces informations sur la page Facebook, le compte Twitter de Sto Tamani. Tamani. Le 17 et 18 janvier prochains, les parties signataires de l'accord de paix se réuniront à Alger pour une rencontre consultative d'évaluation du processus de paix. Pendant ce temps, les actes de violence continuent dans les régions du Nord. Certains spécialistes des questions sécuritaires estiment que le cantonnement des groupes armés pourrait être une partie de la solution à ces problèmes. Ousmane Cornio est de cela. Il était l'invité de l'émission Grand Dialogue d'hier.
Je suis sûr que si on arrive à cantonner ces éléments, c'est une manière de déblayer et de balayer tous ceux qui resteront. Ce sont ceux qui ne sont pas pour la paix ou les terroristes. Alors on donnera libre cours à l'opération Barkhane d'attaquer alors tous ceux alors qui se déplacent dans la zone. Mais tant qu'on ne cantonne pas, ben écoutez, on ne sait pas ceux qui se déplacent, et qui est rebelle, qui est terroriste, qui est djihadiste. Donc on est dans une situation de sursis actuellement, où on peut se déplacer librement avec son arme en attendant le cantonnement. Dans tout le processus de négociation vers le cantonnement, cette période est une période très 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 critique. Et donc moi je ne suis pas surpris de l'insécurité actuellement qui est en train de se passer dans les trois régions. Mais si on arrive à faire le cantonnement, je crois qu'il y a une partie de la solution qui a été atteinte.
Je vous l'annonçais dans le titre, les réfugiés maliens du camp de Mbera en Mauritanie dénoncent leurs conditions de vie difficiles ainsi que la malnutrition qui frappe les enfants. Ils interpellent les organisations humanitaires et réclament une amélioration de leur situation ainsi qu'une meilleure sécurité pour leur retour dans leurs localités respectives. Fatima Touboubakar est la représentante des femmes réfugiées dans le camp de Mbera.
Souvent, une insuffisance alimentaire et les gens qui n'ont rien, que ça que je vais faire, les donnent, elles ne les donnent rien. Franchement, celui qui n'a pas une autre quelque chose à côté, c'est insuffisant. Femmes enceintes, les enfants, ce sont des plus vulnérables, eux sont à l'abri de tous les problèmes. Il n'y a pas une grande prise en charge. Hein. La vie des réfugiés est une vie franchement très difficile pour les femmes et les enfants. Mais non seulement ils vivent sans abri, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'assainissement, tout le monde vit ensemble, donc ça crée aussi une atmosphère qui demande une certaine hygiène. Le pauvre ne peut pas retourner tant que les situations n'ont pas régularisé. Il faut que ça soit un retour organisé, un retour programmé, un retour dont on a pris tout le monde en charge.
La musique René Agao, le groupe Songwestar, dont le matériel avait été saisi et détruit par les groupes djihadistes pendant l'occupation de 2012, reprend ses activités, en partie grâce à la MINUSMA qui a financé leurs nouveaux instruments. Un concert avait même été prévu la semaine passée. Il a été reporté à une date ultérieure en raison de l'état d'urgence. Yeya Harbi est le responsable du groupe Songwestar. Il a été joint par Mahaman Al-Mamoun.
Vraiment, le nouveau matériel nous va dire tout cas parce que ça va nous permettre de reprendre la répétition comme ça, c'est droit. Parce qu'on s'attend à un biennale aussi. On s'attend à un biennale qui se prépare. Peut-être, à l'avenir, il y aura un biennale. Ça trouve que déjà, nous sommes point prêts. Nous avons le matériel et puis ça va nous favoriser, essayer de même encadrer quelques jeunes qui veulent faire de la musique, que ce soit la musique moderne ou bien la musique traditionnelle. Ça veut dire que nous sommes en train de commander et revaloriser notre patrimoine culturel avec tout le monde, avec pas de distinction des races. Nous avons beaucoup de gens qui sont venus, le Tamashek, les Arabes, un peu partout. C'est-à-dire nous sommes en train de chercher à se réconcilier pour faire de la très bonne musique et faire de la musique de la raison. C'est ce que les pays nous demandent de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils sont venus pour apprendre à jouer comme de la musique. Bon, ça nous a favorisé d'essayer de former quelques jeunes.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, le club des maires de Sikasso a identifié en 2015 31 cas d'excision dont 5 ont conduit à des décès dans la région. Une cinquantaine de femmes issues de ce groupement échangent depuis hier sur les mutilations génitales féminines. L'objectif est de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des populations. Selon les organisatrices, l'excision est ancrée dans les pratiques traditionnelles et coutumières locales. 60 millions de francs CFA, c'est le montant investi par l'association allemande Action pour l'Afrique dans la construction du centre multifonctionnel des personnes handicapées du cercle de Kuchala. La remise officielle des bâtiments aux bénéficiaires a eu lieu dimanche en présence des donateurs. Ces bâtiments vont permettre de faciliter l'insertion socio-économique des personnes handicapées grâce à des activités génératrices de revenus. L'ONG Wetland International renforce la connaissance des journalistes de Mopti sur les effets du changement climatique. Les modules d'échange portent sur la gestion de l'eau adaptée à l'écosystème, les moyens d'existence et les risques de catastrophes. La rencontre est financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Visite des services régionaux par le nouveau gouverneur de la région de Koulikoro. Il s'est rendu hier au conseil de cercle, à la mairie, à l'Office national des transports ainsi qu'à la direction de l'assainissement. Cette visite a permis une première prise de contact avec les responsables des différents services et d'échanger avec eux sur les conditions de travail. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute. Dans un instant, le magazine.